France Culture. France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
À l'occasion de la Fashion Week, ne devrions-nous pas nous interroger sur la place qu'occupe la mode dans notre société ? La mode, terme profondément ambigu, désignant d'une part ce curieux élan, poussant chacun de nous à adorer les dernières tendances, à se conformer aux goûts qui sont en vogue, bref, à suivre l'influence, voire le diktat, de l'instant immédiat. Mais ce mot qui désigne aussi un art à part entière, de la haute couture à la fast fashion, la création de vêtements qui esthétisent le corps. En quoi cet art consiste-t-il au juste ? À mi-chemin entre la logique du capitalisme et celle de l'inspiration, comment trouve-t-il sa voie ? Pourquoi l'élitisme dont il est le symbole demeure-t-il populaire ? Est-il un vecteur de standardisation ou d'émancipation ? Il se pourrait à cet égard que la mode soit l'art par excellence de la modernité, dont elle cristalliserait la grandeur et les contradictions. Fashion Week, comment célébrer la mode ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés aux côtés du créateur Christian Louboutin, de l'écrivaine Christine Orban et de l'historienne Émilie Amen.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Bonjour Christian Louboutin.
Bonjour.
Vous êtes créateur, artiste, on va en parler, créateur de chaussures et notamment, pas que, mais notamment de la mythique chaussure à talons et semelles rouges. Bonjour Christine Orban.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, vous avez beaucoup écrit sur la mode et notamment deux livres, un Fringue et l'autre dont on parlera aussi, Mademoiselle Spencer, aux éditions Albin Michel. Et bonjour Émilie Amen.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités juniors à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du Palais Galliera et vous êtes auteure de plusieurs ouvrages sur la mode, L'idée de mode aux éditions B42. Après un premier tome titré Une nouvelle histoire, le second Un devenir art paraît le 20 mars. Alors, en cette période où l'actualité est terrible, sanglante et guerrière, quand nous préparions l'émission avec Aline Biette, elle me signalait qu'il y avait cette autre actualité, un peu passée sous les radars, en tout cas sous les miens, qui était la Fashion Week. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai jamais assisté à un événement de la Fashion Week, et puisque l'émission s'appelle « Sans préjugés », la première question, la plus simple, que j'aimerais vous poser, Christian Louboutin, c'est comment on fait pour transformer ces créations en show, et comment on fait pour montrer que, tout en restant fidèle à son style, à sa patte, on se réinvente de saison en saison.
Alors, vous tombez un peu sur la mauvaise personne, puisque moi, je fais vraiment des accessoires. Donc, la Fashion Week, en général, les gens un peu du monde entier, l'écosystème de la mode, arrive à Paris pour voir des shows. Alors moi, je vous dis que c'est un peu mal tombé parce que je ne fais pas de shows. Je fais des shows une fois par an, mais qui ne montrent pas, qui ne sont pas vraiment là juste pour montrer ce que je fais, la saison, la collection, mais plutôt une ambiance. Moi, je tourne plutôt autour d'une ambiance. Et puis, j'estime que, mais ça, c'est ça apporte que moi, hein. J'estime que la mode, quand même, ça doit être une chose festive. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça de manière très différente, mais pour moi, c'est important parce que justement, il y a tellement de choses qui se passent qui ne le sont pas, que je trouve que d'en rajouter une couche pour des choses qui sont et importantes et peu importantes, là, je parle de la mode, c'est mieux de le faire vraiment dans la joie. Donc, moi, quand je fais une chose, au moment de la Fashion Week, c'est un show, mais c'est plutôt une chose joyeuse, systématiquement. Et je montre assez peu. Il y a un spectacle, c'est un spectacle autour de la danse, en général, mais toujours autour de la danse. En fait, maintenant, c'est toujours autour de la danse. Et ensuite, un endroit où on montre la collection.
Alors, cette dimension de fête, elle est intéressante. Émilie Amen, pour partir d'un autre préjugé, je ne sais pas dans quelle mesure il est vrai, mais est-ce que la Fashion Week, vous le diriez que c'est un événement élitiste ou au contraire démocratique ? Peut-être que l'arrivée des réseaux sociaux a changé aussi quelque chose en la matière.
Oui, assurément, il y a une dimension élitiste quand on considère le nombre de personnes qui sont invitées à s'asseoir et à pouvoir profiter dans le sens d'une performance au défilé lui-même. C'était très élitiste quand on a inventé ces modèles des défilés au tout début du XXe siècle. Et force est de constater que la diffusion des images, sans refaire une histoire des médias, a largement contribué à partager ces messages, ces images, ces idées, ces fêtes, effectivement, à toute personne qui soit allumait son poste télé, soit regardait dans un magazine les images en décalé. Aujourd'hui, on a cette chance, sans doute, et je pense qu'il y a aussi un engouement qui est partagé par une jeune génération qui n'a pas forcément accès effectivement au défilé, mais qui, grâce aux réseaux sociaux, peut suivre à l'instant près les silhouettes qui sont proposées par tous les créatrices et créateurs.
Et alors, la question que ça pose aussi, Christine Orban, c'est celle donc de la complémentarité ou de la contradiction entre le renouvellement et la reconnaissance d'une marque de chaque maison. Est-ce que c'est ce qui vous a marqué? Je ne sais pas si vous avez suivi cette Fashion Week de cette année-là.
Oui, j'ai suivi en tout cas celle de la Fashion Week passée, et je suis assez admirative au fond par la fidélité des créateurs, que ce soit Jonathan Anderson, que ce soit Blasi, qui continue toujours, il continue la tradition. Ce qui avait rendu Christian Dior célèbre, c'était cette fameuse, entre autres, veste bar, et on la retrouve toujours pour la collection Dior, chez Chanel, toujours aussi le tailleur tweed. Je trouve qu'il y a une fidélité, une continuité et puis une adaptation. Quand Lagerfeld a été nommé chez Chanel, il avait tellement de talent, de personnalité, qu'on se dit comment il va s'adapter au style Coco Chanel. Et je trouve ça absolument formidable, miraculeux même. La dernière collection de Blasi, j'ai eu la chance d'y assister. C'est comment il joue avec les transparences qu'il ajoute à ce tailleur qui devait être assez sévère, ce tweed. Et c'est tout ce qui sont construits, ces vestes sur des robes transparentes, je trouve ça absolument magnifique. C'est une des très belles collections Chanel, la dernière.
Alors justement, cette question-là, Christian Louboutin, même si, comme vous l'avez expliqué, vous ne participez pas à la Fashion Week en tant que telle, mais que vous faites des shows, des spectacles réguliers. Je cite notamment celui qui m'a marqué quand j'ai préparé l'émission de 2025 dans la piscine de l'hôtel Molitor, qui était un show complètement fantasque, avec des nageuses, des danseuses synchronisées en talons aiguilles, des lumières frénétiques, des fontaines grandioses, et un toboggan et un plouf final de vous. Même, je crois, dans la piscine.
Oui.
Comment vous concevez ces spectacles-là?
Alors, le plouf, il n'était vraiment pas prévu. Le plouf, il n'était pas prévu, mais le reste... Alors, c'était donc ce show à Molitor, c'était juste après les Jeux Olympiques. Et au moment des Jeux Olympiques, les gens étaient très agités sur les Jeux Olympiques. Alors, les gens de la mode, comme ça, il y avait tout à coup, le sport devenait une chose très importante. Ça l'était un peu moins avant, mais tout à coup, il se passe beaucoup de choses autour du sport, etc. Et donc, moi, comme tout le monde, je me pose des questions. Les Jeux Olympiques, la mode, les corrélations possibles ou pas, faire avec ou pas, etc. Mais moi, il y a une chose que j'ai toujours aimée. Donc, à nouveau, c'est la danse. Moi, j'ai commencé à dessiner des souliers pour les danseuses, pas du tout pour la mode. Je suis un peu tombé dans la mode, mais la réalité, c'est que moi, c'était mon univers, c'était le musical. Donc, j'ai toujours aimé vraiment les souliers en mouvement, puisque vraiment la danse, c'est un soulier en mouvement. Donc Molitor, je me suis dit qu'il y avait une chose... Et j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est chorégraphie. Donc je me suis dit, il y a un endroit qui est tout à fait inattendu pour des souliers, surtout pour des souliers avec des talons, c'est l'eau. On nage pas avec des escarpins. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc je suis allé voir à Vincennes l'équipe olympique. Donc on a une très bonne équipe de natation synchronisée, les Français. On est très bons en natation synchronisée pour les Jeux. Et ils étaient stressés parce que c'était juste avant les Jeux, mais je leur ai dit, écoutez, c'est après les Jeux. Et alors, tout à coup, c'était formidable pour eux parce que c'était tellement facile, parce que tout le stress des Jeux, etc. Donc, jusqu'en juin, ils n'avaient pas un jour, une demi-journée. Mais ensuite, en septembre, c'était la totale liberté. Et donc, j'ai demandé à un photographe qui fait des films aussi, qui s'appelle David Lachapelle, de faire la chorégraphie et de la filmer. Et donc voilà, donc c'était un show dans la piscine Molitor, et qui a été filmé aussi, et qui était très 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 beau. Et voilà, et c'était très amusant. Et donc il y avait aussi Blancali qui a fait toute la chorégraphie des gens qui étaient des danseurs, qui n'étaient pas dans l'eau. Mais il y avait un espèce de mélange, puisqu'ils étaient tous habillés pareil, on ne comprenait pas qui était vraiment... dans la nageur et qui était juste danseur. Et voilà, et je suis tombé dans l'eau parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait être en retard, et j'ai dit, si la personne n'est pas en retard, avec Blanca, on a dit, bon, si la personne n'est pas en retard, eh ben ok, moi je plonge dans l'eau. Et la personne n'était pas en retard, donc j'ai sauté dans l'eau.
Moi, alors... j'attends les palmes, hein. J'ai pas le bouton. Hein.
C'est très intéressant cette histoire parce que vous montrez quand même qu'un spectacle de mode s'inscrit aussi dans un récit global, dans un récit collectif. Et Émilie Hamen, quand on préparait l'émission, vous avez dit, je crois, Aline Biette, que ce qui vous a marqué dans cette édition de la Fashion Week, c'était la réappropriation du patrimoine. Alors, j'ai lu un article du Monde de Valentin Pérez à la Fashion Week de Paris, les designers explorent le temps, qui donnait deux exemples qui m'ont intéressé. Chez Acne Studio, Johnny Johnson qui a voulu reprendre les archétypes des boomers, entre guillemets, mais tout en les émancipant, tout en les arrachant au code bourgeois, par exemple, la jupe plissée sous le genou, électrisée par des bottes pointues de dominatrices. Et Alain Paul, qui a voulu se réapproprier, et alors là on rentre aussi dans la dimension muséale, l'héritage du XVIIIe siècle, avec des gilets de marquis, des gants d'opéra en maille, mais évidemment en modernisant tout ça. La question du patrimoine était au cœur cette année ?
J'ai envie de dire qu'elle est souvent. C'est même presque constitutif du phénomène de mode comme acte créatif. Le goût pour l'historicisme qui domine les époques passées, 19e siècle, on se nourrit largement des siècles passés. Les couturiers eux-mêmes le racontent très bien dès ces années 1850, 1860, quand ils sont en quête d'inspiration, ils vont dans les galeries du Louvre. Plus récemment, et c'est ce qu'on évoquait il y a quelques instants, depuis la fin du 20e siècle, alors que des maisons qu'on pourrait qualifier d'historiques, notamment de luxe, de prêt-à-porter et de haute couture, dès lors qu'elles ont pris conscience de l'importance des archives pour composer un récit et une identité de marque, ce n'était plus forcément un historicisme traversé par des inspirations diverses de peinture, de littérature. Ça devenait une référence parfois plus précise à un patrimoine de marque. Et donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'une des exceptions culturelles de la Fashion Week parisienne, ou en tout cas des copies que nous livrent directrices et directeurs artistiques des grandes et plus petites maisons, ici même à Paris. C'est ce rapport singulier à l'histoire. Bien sûr, elle existe ailleurs, mais je dirais qu'à Paris, on le sent tout particulièrement. Et depuis quelques saisons, c'est surtout depuis la Fashion Week d'octobre dernier qui a vu arriver des créateurs d'une nouvelle génération à la tête de maisons historiques. On évoquait donc un Christian Dior avec Jonathan Anderson qui reprenait les rênes de la maison Dior et de ses nombreuses collections, et Mathieu Blasi, en effet, qui reprenait la maison Chanel. Il y en a d'autres aussi, mais on voit ici, depuis ces quelques mois, depuis l'automne dernier, des nouvelles propositions d'une nouvelle génération de directrices et directeurs artistiques qui composent avec ce récit historique et bien souvent avec un patrimoine de marque.
Et cette nouvelle génération-là, Christine Orban, c'est pas, est-ce qu'elle n'incarne pas aussi une sorte d'équilibre, de juste milieu entre l'humilité ? Il faut s'adapter à une grande maison dans laquelle on arrive, qui a une histoire, etc., qui a une légende. Et quand même un peu, sinon d'orgueil, du moins d'audace.
Oui, c'est très réussi. C'est pas évident et très réussi. En effet, l'humilité de s'adapter à Coco Chanel ou à Christian Dior, mais en même temps, c'est un tel honneur d'avoir à suivre, à continuer, je dirais plutôt, ces immenses créateurs.
Cette contradiction-là incarne peut-être toute l'équivoque que nous allons explorer entre les deux sens du mot mode, la mode comme la tendance, être à la mode, et la mode comme un art à part entière qu'il s'agira d'essayer de comprendre.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme tel que je l'ai dépeint, ce solitaire, doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire.
très court.
Nos auditeurs auront peut-être, alors c'est pas la voix de Charles Baudelaire naturellement, mais reconnu un extrait du peintre de la vie moderne de Charles Baudelaire, mais ils auront probablement reconnu aussi la voix de Georges Clès sur France Culture. Pourquoi le peintre de la vie moderne ? Parce que Baudelaire a compris mieux que quiconque que l'attitude moderne consiste à essayer de saisir l'éternel et l'immuable derrière le transitoire, le fugitif, le contingent. Il faut lire aussi son commentaire par Michel Foucault dans Qu'est-ce que les Lumières, où il revient sur le fait que, par exemple, au XIXe siècle, au moment où écrit Baudelaire, il y avait la mode de l'habit noir et de la redingote. Et Baudelaire comprend que cette mode-là, elle n'est pas superficielle, elle n'est pas éphémère, puisqu'elle exprime quelque chose d'éternel, à savoir le rapport que la modernité naissante européenne entretient avec l'angoisse de la mort. Christian Louboutin, de la même manière qu'une mode immédiate peut exprimer quelque chose d'éternel, votre semelle rouge, alors je ne sais pas si vous accepterez de nous raconter d'où vous est venue cette idée de la semelle rouge, mais est-ce qu'elle n'exprime pas quelque chose d'éternel, un rapport au temps, un rapport au désir, un rapport à la liberté différent ?
Alors, moi je n'ai pas pensé comme ça, mais il y a une chose éternelle, c'est le rouge, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est une couleur, mais c'est une couleur qui n'est pas une couleur, disons, ni normale, ni anodine. Dans le code des couleurs, je dirais qu'il y a le noir, le blanc, donc les non-couleurs, avec peut-être l'or et l'argent. Ensuite, il y a toutes les autres couleurs, mais au milieu de ça, il y a le rouge.
C'est-à-dire qu'on voit le rouge.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles dans le rouge, et aussi, très souvent, les gens qui n'aiment pas les couleurs porteront quand même du rouge. Et au moment où moi j'ai commencé à peindre mes semelles en rouge, j'ai quand même regardé s'il y avait des significations différentes et des significations négatives. Et je n'ai pas trouvé. Alors on peut dire que c'est la couleur du sang, donc le sang c'est la mort, mais le sang c'est aussi la passion et c'est aussi la vie. Donc dans des cultures complètement différentes, le rouge exprime toujours quelque chose d'assez important. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question d'ailleurs, mais...
Ça répond...
Mais il y a une forme d'éternité dans le rouge. Et c'est amusant. Alors maintenant, j'ai des millions d'anecdotes là-dessus. Mais je me rappelle au moment où j'ai dessiné la semelle rouge. J'avais ce magasin rue Jean-Jacques Rousseau, mon premier magasin. Donc ça, on est en 92. Et puis, il y a cette femme qui arrive et qui dit « Ah, je déteste la couleur. » Mais moi, j'avais déjà peint la semelle en rouge, mais elle n'était pas sur les souliers. Elle dit « Ah, moi, je ne porte jamais de couleur, etc. » Je lui dis « mais jamais, jamais, jamais une couleur. » Je lui dis « Mais regardez. » Elle me dit quoi ? Je dis, regardez vos ongles, regardez vos lèvres. Et elle m'a répondu tout de suite, ah oui, mais rouge, c'est différent. Et vraiment, pour la plupart des gens, qui ne porteraient que du noir, ce qui était le cas dans les années 90, mais je vois Christine qui est en noir, je vois Émilie qui est en noir, ça continue, le noir est une dominante, bon, en tout cas en Europe, et en tout cas en France, mais le rouge passe à travers les couleurs. Si on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le orange. On ne va pas porter du vert, on ne va pas porter du violet, ça c'est sûr. En revanche, le rouge passe à travers.
Alors, est-ce que vous allez être d'accord, Christian Louboutin, avec ces lignes d'une autre écrivaine que Baudelaire, Christine Orban, dans Fringues ? À l'opposé, il y a le rouge. Rouge qui est le diable. Le petit chaperon, Valentino, les coquelicots, le sang, les lèvres, le rubis, la colère ou la honte, les fruits et le vin que j'aime. Ce personnage de Fringues, surnommé Darling, est-ce qu'elle n'est pas la version moderne du dandy baudelairien dont nous entendions tout à l'heure le manifeste?
Oui, absolument. Absolument. Mais en fait, quand je l'ai inventé, créé, j'ai aussi pensé à moi, évidemment, mais aussi à beaucoup de femmes qui se servent du vêtement pour dire quelque chose, parfois pour se cacher, pour faire croire que tout va bien alors que tout va mal. J'ai pensé aux vêtements paravent, aux vêtements pansement, puisque Darling est plutôt une héroïne mélancolique et douloureuse, et qui se sert du vêtement. Le vêtement m'a beaucoup aidée dans ma vie, et pas comme on croit pour des raisons, on peut croire futiles. J'ai écrit aussi un autre livre sur la mort de ma petite sœur et je voulais pas que mes enfants voient à quel point j'étais désespérée Et à ce moment-là, mon ami Emmanuel Ungaro m'a aidé avec des couleurs rouges, d'ailleurs, roses, des couleurs qui étaient la vie, qui étaient les fleurs, qui étaient pour faire croire que tout allait bien. Donc, je me suis servi de la mode et de la couleur d'une manière un peu détournée. Parce que c'est vrai que le Poiret disait que la mode est une fête, que... mais de me cacher derrière la fête, justement.
C'est très intéressant, cette idée-là de l'inscription aussi historique de la mode. Emilia Mène, vous avez écrit L'idée de la mode, qui est un texte, un livre qui revient sur l'évolution culturelle, de la définition presque de la mode par rapport aussi aux évolutions de la société. Dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure de Baudelaire, est-ce qu'il n'y a pas cette idée que la mode est intrinsèque à la construction de notre modernité?
Absolument, et c'est pour ça que je me plais toujours à lire et relire ces phrases, cette écriture, la manière dont Baudelaire l'a caractérisée, résonne encore pleinement aujourd'hui, et ce rapport à une modernité qui est toujours portée vers ce goût de la nouveauté, un renouvellement perpétuel, et qui est en même temps tiraillé avec cette question des classiques, des standards. C'est ce qui permet, comme Baudelaire l'explique aussi, de comprendre notre rapport au démodé, le fait que certaines parures qui nous paraissent d'un mauvais goût sont en réalité le reflet d'un temps présent, le reflet des aspirations culturelles, sociales, politiques d'un temps présent. Et cette double qualité de la mode telle qu'il l'a définie est assez juste.
Christian Louboutin, il est difficile de demander comment vous avez créé la semelle rouge, etc. En revanche, est-ce que c'est plus simple de vous interroger sur la manière dont vous vous inspirez? D'où vient votre inspiration? Parce que votre semelle rouge, elle parle au monde entier. Elle est absolument universelle. Elle s'adapte à toutes les cultures. Alors peut-être que c'est dû, comme vous le disiez, au fait que le rouge est une couleur qui n'a pas de signification négative dans certains pays. Est-ce que c'est aussi que vous êtes un immense voyageur et que votre manière d'être voyageur vous a nourri profondément?
Donc la question, c'est quoi?
C'est est-ce que vos voyages au Brésil, en Inde, mm-hmm. votre en Égypte, votre découverte
des
d'autres
cultures?
Oui.
Oui, mais je pense que quand on est un créateur, on est à nouveau, je peux parler que pour moi dans le fond, mais moi je suis inspiré partout. Donc le fait de voyager, je voyage énormément, c'est une chose qui m'a toujours plu, donc je retiens beaucoup de choses de mes voyages. Mais ensuite, c'est vrai que même un peu autour de ma chambre, il y a des choses qui vont me taper dans l'œil et que je vais redessiner. C'est-à-dire que j'ai pas une manière très scolaire d'être, disons, inspiré. Il y a vraiment des gens qui font des mood boards, etc., des idées. Ils partent de manière, ce que j'appelle un peu de manière scolaire, ils partent vraiment avec un programme. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Moi, c'est vraiment, c'est un peu au gré du temps, c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, quelqu'un qui marche dans la rue, ça, tout à coup, une silhouette va m'inspirer et je vais dessiner cette silhouette et je vais faire un soulier qui était pour cette silhouette. Donc ça peut une conversation, je me rappelle, il y avait des gens qui m'avaient appelé, un commissariat qui m'avait appelé, qui demandait si je connaissais une dame que je connaissais pas du tout, mais la dame avait tué quelqu'un. Enfin, toute une histoire très compliquée. Et alors, je me suis dit, c'est drôle, j'ai une cliente qui est une meurtrière. Alors, j'ai fait un soulier qui s'appelait Murdress. Et puis, c'était un soulier avec un talon très fin, parce que je pensais que ça pouvait être utilisé. Donc, à nouveau, ça peut venir d'une anecdote, ça peut venir d'un... Moi, j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup tout ce qui est culture, art décoratif. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent à travers les objets. Mais ça peut être de n'importe quelle culture, de n'importe quel endroit. À nouveau, une conversation, un film, une musique. J'ai pas de limite là-dessus.
Et vous me disiez aussi, je crois que, par exemple, sur la couleur or, mm-hmm. le fait que vous connaissez très bien le Moyen-Orient, que vous mm-hmm. êtes allé beaucoup en Afrique, que vous êtes allé au Brésil, etc., vous représentez cette couleur de façon différente.
Oui, oui, absolument. C'est vrai que le fait de voyager et d'avoir les yeux ouverts, les oreilles aussi, mais dans mon cas, c'est quand même beaucoup, beaucoup les yeux. Enfin, les yeux comptent presque plus que les oreilles, quand même. Donc l'or, quand je dessine et que je pense par exemple à un motif qui est en or, l'or c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on pense un or indien, C'est un or qui va être martelé, qui va avoir des reflets différents qu'un or des années, un or de l'art déco qui va être très lisse. Et qui, voilà. Et puis il y a des ors africains qui sont plus oranges. Je veux dire, or, ça transporte beaucoup de choses et beaucoup d'imaginaires différents. Donc, donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais...
non, mais vous m'avez répondu. Et Christine Orban, Darling, manifeste presque pour l'apparence, manifeste d'une femme qui se libère vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du travail, par cette arme qu'est le vêtement. Est-ce que c'est aussi un texte qui vient nous dire qu'on a souvent déprécié la mode, qu'on ne l'a pas assez prise au sérieux, et notamment dans la littérature ?
Ça, c'est sûr. C'était écrire un livre et l'appeler fringue était... J'aurais peut-être pu l'appeler de l'apparence et ça semblait plus sérieux. C'était un peu provocant, mais je l'ai fait parce que le vêtement nous accompagne. Forcément veut dire quelque chose. Si on s'habille en noir, ça a sûrement une signification par rapport à s'habiller en rouge. Et c'est intéressant, la peinture s'est beaucoup intéressée aussi, la robe de Marie-Antoinette, la chemise à la reine a fait scandale quand Madame Vigée-Lebrun l'a peinte. On parlait tout à l'heure de Diana, de Lady Spencer, qui va s'habiller avec la revenge dress, une robe noire, alors que le palais interdit le noir hors des enterrements. Une robe moulante de son amie Christiana Stambolian, qui est une couturière grecque. Et évidemment, c'est un coup de poing dans la monarchie. C'est une façon de dire « je me libère, je divorce ». Donc, le vêtement peut aussi servir quand on ne sait pas s'exprimer ou quand on n'a pas envie non plus de s'exprimer. Mais on s'en sert beaucoup pour séduire, n'est-ce pas, avec les talons. Mais il n'a pas que la fonction de séduction, il peut être aussi une provocation, dans le cas de Marie-Antoinette et de Diana, par exemple.
Alors c'est très intéressant, parce que là, on va vers l'idée que le vêtement est un vecteur d'émancipation. Mais Émilie Hamen, pour faire écho au titre un peu de notre émission, aussi sans préjugés, dans la manière dont on peut déprécier le vêtement, ou la mode plutôt que le vêtement, il y a un préjugé qui est peut-être juste ou non, je ne sais pas, mais c'est que la mode serait le symptôme d'un phénomène beaucoup plus global, qui est la société de consommation, un rapport où l'éphémère et la nécessité de toujours s'adapter, de toujours avoir plus, de ne jamais se contenter de ce que l'on a. Est-ce que la mode, aujourd'hui, en tout cas par rapport à Baudelaire, elle a été rattrapée par une modernité un peu folle ?
Je pense que ça pose la question de l'apparition de la mode et de son périmètre même géographique, qui est quelque chose dont on parle beaucoup, en tout cas on s'interroge beaucoup sur ça, parce que précisément, il me semble que cours de cette époque moderne, on a superposé cette définition de la mode avec celle de l'économie marchande, industrielle, capitaliste. Et qu'aujourd'hui, on qualifie de mode ce système économique, ce système qui produit sur un rythme soutenu, mais voilà, par définition, qui est celui de la société de consommation. Alors que la mode, comme on l'évoquait à l'instant, c'est aussi quelque chose qui s'applique à toute personne qui fait un choix le matin en associant un accessoire, un chapeau, une veste, une robe, que sais-je, et qui crée une apparence, un langage non verbal, mais par la constitution d'une silhouette. Et c'est cette juxtaposition des deux qui prête parfois à confusion et qui fait qu'on a tôt condamné la mode, alors que l'on essayait peut-être davantage, je pense, d'émettre un jugement critique, et il le faut, face à une société de consommation qui ne se limite pas, bien sûr, à la consommation de vêtements. Il y a les voitures, il y a les téléphones, il y a tout ce qu'on veut.
Il y a une chose bizarre aussi, c'est que la mode, on parle de la mode, mais comme si ça appartenait juste à la mode, aux vêtements. Mais c'est les modes. Je veux dire, en architecture, il y a des modes. Dans la musique, il y a des modes. La mode, ça n'appartient pas qu'au domaine de la mode. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi le domaine de la mode s'appelle la mode, parce que la mode est partout et depuis très longtemps. Il y a des moments où les gens... C'est des tendances. Enfin, c'est presque à mélanger avec le mot tendance, mais... Il y a des modes partout. En ce moment, il y a une mode épouvantable. C'est que On a des tonnes de dirigeants épouvantables qui font des guerres. Il y a une mode de guerre. Il y a eu un moment, il y a eu des moments de paix. On est maintenant dans une période. Donc la mode, il y a le domaine de la mode qui appartient à la mode, mais le mot la mode s'inscrit dans beaucoup d'autres choses que dans le vêtement, que dans la mode.
Merci beaucoup de dire ça, Christian Louboutin, parce que, en général, une bonne émission, c'est une émission où on se rend compte au cours de l'émission qu'elle était peut-être mal nommée. Et cette manière dont on utilise le mot mode pour l'accoler automatiquement et par préjugé aux vêtements est le cœur du sujet. Ouais. La mode, vecteur donc d'émancipation ou de consommation, on en rediscute dans un instant.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
C'est un livre qui s'appelle « Système de la mode » et vous voyez que je n'ai pas caché mes intentions puisque le mot « système » existe dès que le titre est donné. Et c'est un livre qui tend à reconstituer, je parlerai enfin d'une façon un peu métaphorique, la grammaire, la syntaxe et le lexique à la fois du vêtement de mode féminin tel qu'il est décrit par les journaux de mode aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce que c'est une systématique? Eh bien, c'est une systématique là qui n'a absolument rien d'implicite, qui est déclarée, parce que précisément, elle se réfère à un système modèle qui est le système de désignification, issu lui-même du modèle linguistique. Il y a donc un système de départ qui est le système de la langue ou le système des signes en général, et j'ai essayé de reconstituer, moi, un domaine d'application de ce système, à savoir le domaine qui est le vêtement.
Nos invités ont reconnu la voix de Roland Barthes qui évoquait son ouvrage « Le système de la mode » dont Émilie Amène disait, juste titre, qu'il ne parle pas tant de mode que ça, dans l'émission « Recherche de notre temps » sur France Culture, le 7 février 1967. La mode comme un langage, ou le vêtement et la mode comme des langages, comme des réseaux de signification, tout ça fait écho, Christine Orban, à votre livre sur Mademoiselle Spencer. Parce que vous retracez à la première personne l'histoire de Lady Diana, et dans son histoire, telle que vous la racontez, il est flagrant que son rapport aux vêtements, d'abord quand elle intègre la famille royale, elle perçoit certaines modes, il y a des modes, mais la mode royale, comme quelque chose de super contraignant, qui vient l'étouffer, et puis dès lors que Charles commence à vraiment mal se comporter, elle va se venger, par la mode, par le vêtement en tout cas, ce passage sur la robe vengeresse, ne pas être critique, ne pas être trop critique, jouer le jeu, chausser des escarpins Louboutin hauts comme des échasses, écrivez-vous, enfiler une robe noire moulante dessinée par mon ami grec Christina Chambolian, etc., etc. Est-ce que chez Lady Di, le vêtement et le vêtement à la mode a été un vecteur d'insolence, de provocation et de liberté?
Oui, absolument. Et surtout, elle va devenir une sorte de Marilyn grâce aux vêtements aussi. Elle va se libérer, elle va se mettre des vêtements sexy. On dira que c'est la Marilyn des années 80. Ça va évidemment beaucoup ennuyer le palais parce qu'elle va prendre toute la lumière. Et c'était une manière aussi de se venger. Donc elle s'est servie du vêtement à partir du moment où les choses vont aller mal. Elle va se libérer des chapeaux assortis au sac, assortis aux chaussures, assortis à la veste. Et elle va s'habiller comme elle a envie, avec des couturières, ses copines, là qu'on vient de citer, grecques. Ça va être une libération. D'ailleurs, là, on peut tomber aussi dans l'actualité par la libération des femmes qui veulent enlever leur voile. Et c'est tout de même la liberté de se vêtir comme on veut. Évidemment, on peut aussi en parler comme un acte politique.
Émilie Amène, est-ce que je fais un court-circuit, un préjugé, si je dis que la mode est intrinsèquement liée aussi à la conquête féministe?
Je pense qu'elle la rend visible. Je pense que ce sont des outils qui participent à d'autres formes de représentation, qu'on porte un voile, un chapeau ou non, qu'on porte une jupe plus ou moins longue. Ça rend visible des débats, des idéologies qui peuvent être nouvelles, qui peuvent venir à l'encontre des idées attendues et des convenances d'une époque. Mais je me méfie toujours, et c'est ce que je dis à mes étudiantes et étudiants, c'est rarement les couturiers qui ont libéré les femmes, c'est elles dans le choix des vêtements et dans les situations dans lesquelles elle les porte. Et donc, voilà, à nouveau, il appartient à tout à chacun de faire ses choix vestimentaires qui, on l'oublie, nous, depuis le contexte qui est le nôtre, parce qu'on peut à peu près s'habiller n'importe comment pour sortir dans les rues ici à Paris, mais dans d'autres contextes et dans d'autres géographies, on se souvient bien des risques encourus quand on fait certains choix vestimentaires. Et là, en effet, c'est le vêtement, mais aussi des formes de mode et le choix, la volonté de suivre, voilà, par exemple, le goût de la mini-jupe, selon les temporalités et les géographies, ça peut devenir un acte politique.
Oui, alors en acte politique, Christian Louboutin, vous m'aviez raconté quelque chose de très intéressant, c'est l'histoire du skin color. Pour parler à tout le monde et à tous les types de femmes et à toutes les couleurs de peau et toutes les nations, etc., vous avez changé un peu la définition de ce qu'on appelle le skin color, c'est-à-dire la couleur nue, la couleur de la peau, comme s'il y avait une seule couleur de peau.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, moi, je montre une collection, donc on a des acheteurs, etc. Donc la collection est montrée à Paris et donc les acheteurs regardent et puis décident d'acheter tel truc, etc. Ça, c'est pour les grands magasins. Et j'avais pas remarqué, mais en montrant la collection, quand il y a un soulier beige, on dit couleur chair. Et on dit, alors voilà, ça c'est marine, ça c'est rouge, ça c'est vernis, et ça c'est couleur chair. Et un jour où on montrait une collection où il y avait des escarpins de couleur chair, quelqu'un a commencé à soupirer, qui travaillait avec moi, Shandy. Et alors je la chope après, je lui dis, en plein rendez-vous, soupirer comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, mais il y a quand même des mots que je n'aime pas. Je lui dis, c'est-à-dire? Elle me dit, chair, couleur chair. Elle dit, quand on montre un soulier comme ça et qu'on dit couleur chair, ça m'énerve. Et elle me dit, très justement d'ailleurs, elle me dit, ça n'est pas la couleur de ma peau. Et pourquoi chair, c'est beige. Et c'est toujours beige. Et c'est vrai, ça a toujours été beige. Quand on dit chair, les gens pensent beige. Alors ça m'a beaucoup turlupiné pendant la nuit. Et je me suis dit, elle a raison. C'est quoi la définition de la chair? C'est que c'est une couleur, la couleur de la peau, et donc qui disparaît. Donc une chose... Un vêtement chair, c'est un vêtement qui va disparaître, qui va laisser la silhouette, etc. Donc et les souliers, c'est pareil. Donc je me suis dit, moi j'aime beaucoup l'idée de la couleur de la peau. Il faut juste, à ce moment-là, faire plusieurs couleurs de peau. Et j'aime le mot nu. C'est pareil, chair ou nu, c'est la même chose. C'est la transparence, une couleur qui se fonde sur sa propre peau. Et donc je me suis réveillé, je me suis dit, elle a raison, Shandy. Donc maintenant, quand je vais faire des souliers couleur chair, je vais faire avec toutes les couleurs de peau, toutes les possibles carnations. Donc de très foncé à très clair. Donc j'ai commencé par 5 couleurs, après 7, et ensuite 9. Donc maintenant, on a, quand on dit skin color ou flesh ou nude, on montre les nudes, c'est 8 couleurs. Parce que la 9e, c'était pas très réussi, c'était un peu trop vert. Donc on l'a retiré. Donc on est sur 8 couleurs de nudes. Et j'entends qu'on parle d'actes politiques, etc. Ça, par exemple, c'est un acte, je m'en suis pas du tout rendu compte, mais c'est un acte sociétaire. Par anecdote, quand j'ai montré la première fois la collection avec toutes ces couleurs de peau, là, donc aux éditeurs, éditrices de mode, ce qui m'est revenu de gens de la mode, c'est, mais je comprends pas, il n'y a pas de marron dans les collections. Alors je me suis dit, c'est drôle quand même, de temps en temps, les gens de la mode ont un décalage avec autre chose qui est la mode. J'ai dit, il n'y a pas de marron, il n'y a pas non plus de marron dans mon soulier. C'est un soulier qui disparaît, c'est la couleur d'une peau. En revanche, tout de suite, c'était je ne sais plus quel journal, un journal anglais, a commencé à parler de ça. Et ensuite, alors moi je suis un peu trop timide pour faire plus que ce que je fais, c'est-à-dire dessiner les souliers. Alors, tout à coup, il fallait que j'aille dans des émissions qui étaient sur la libération de la couleur de la peau, etc. Alors, Oprah Winfrey en Amérique, à Chicago, je ne sais pas quoi, à New York, etc. Et alors, j'ai finalement un peu refusé tout parce que je ne voulais pas, moi, me retrouver dans une histoire. Enfin, je ne l'ai pas fait comme un acte politique. C'est juste, c'est plutôt un reflet de la société qui m'a paru évident. Et j'ai toujours remercié Shandy de ça, parce qu'elle avait complètement raison. Et c'est des choses, de temps en temps, dont on ne se rend même pas compte. Je dirais, c'est vrai que la couleur chair, voilà, pour la plupart des gens, si on dit chair, vous allez voir ce qu'on va vous dire comme couleur. Mais donc, voilà, c'est là où la mode est un reflet de la société qui bouge.
La mode comme reflet de la société qui bouge, est-ce que ce n'était pas aussi la question, Christine Orban, vous avez écrit sur Marie-Antoinette, et vous me disiez qu'à certains égards, c'est peut-être une des préfiguratrices de cette idée-là, non?
Oui, dans mon livre, je dis que c'est la Lady Di du 18e. Parce qu'en effet, elle a voulu faire bouger les choses, ne serait-ce que pour le confort. Les robes étaient tellement, tellement lourdes. Il y avait des baleines. Il y avait... Donc, quand elle a voulu inventer la chemise à la robe, ça a fait scandale quand Madame Piaget-Lebrun, donc la peinte en chemise à la robe, c'était scandaleux. Et c'était donc une forme de libération, mais aussi pour être plus confortable. Et d'ailleurs, ça m'amuse parce qu'il y avait la couleur nude à l'époque. Mmh. Et on l'appelait couleur fesses d'ange. Donc, j'avais des noms très sophistiqués. Oui.
Mais il y a cuisse de nymphémue,
oui,
par exemple.
Oui, j'adore la cuisse de nymphémue aussi, voilà. Oui. Il y avait des noms pour les couleurs.
Mais là, pour le coup, on voit tout de suite une couleur très spécifique. Donc, oui. Je trouve que le mot, la définition est plus juste.
Mais je trouve que mm-hmm. ton idée est vraiment bonne, parce que c'est tellement joli d'avoir le cuir ou la robe qui se fond sur sa couleur de peau, et d'imaginer pour toutes les peaux, c'est formidable.
Nous nous rapprochons gentiment de la fin de cette émission, mais il y avait une autre question qu'il fallait aborder, et qui est d'ailleurs en résonance avec ce qu'on dit. Emilia Mène, vous êtes directrice Palais Galliera. Toutes les questions dont on parle depuis tout à l'heure, on parlait de l'éphémère, mais en fait c'est une histoire. Comment on muséifie la mode ?
Alors, la mode, comme tous les autres champs de production, à bien des égards, passe par cette étape de la patrimonialisation. Il y a celle que l'on observe, on l'évoquait précédemment, au sein des entreprises elles-mêmes, au sein des maisons. On regarde peut-être parfois avec affection, parfois avec d'autres émotions, ces premières collections, et on se situe vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que nous, dans un musée, on se pose ces mêmes questions aussi, avec en ligne de mire ces générations futures, les visiteurs de demain, qui dans 100 ans voudront découvrir ce qu'était la mode en 2026. Et donc, on enrichit nos collections, bien sûr, des époques, des siècles passés, mais on se pose aussi la question du contemporain. Qu'est-ce que l'on choisit ? Qu'est-ce que l'on retient des périodes qui, par définition, nous aveuglent parce qu'on les vit donc, c'est toujours des choix qui sont discutés, bien sûr, entre nous, mais c'est cet éternel... aporie d'essayer de définir le contemporain. Le peut-on vraiment ? Est-ce qu'on le peut par une chemise ou une paire de chaussures ? C'est une autre forme posée à ce défi.
Alors je ne sais pas s'il y aura un jour un musée Louboutin, mais en tout cas vous me racontiez que vous ne gardez pas vos archives et vos brouillons, mais je vous remercie tous les trois pour cette émission, ce voyage entre l'éphémère et l'éternel. Et je remercie tout particulièrement Aline Biette qui l'a préparé, et tout particulièrement aussi Souad Boukorsa qui l'a réalisé et mis en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.